le rendez-vous de l'actu.
Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion des rencontres de Nantes organisées par le CNFPT, j'ai eu le plaisir de rencontrer François Bédénès, conférencier et créateur de la Fabrique du Changement. Bonjour François.
Bonjour Jean-Michel.
François, à l'occasion de votre intervention dans ce séminaire, vous avez abordé le sujet des enjeux de transformation publique. Pourriez-vous les rappeler à nos auditeurs ?
Alors, je vais essayer d'en rappeler quelques-uns. Un des enjeux, je pense que tout le monde constate en ce moment, c'est l'enjeu de l'attractivité, aussi tout simplement du service public, et singulièrement des collectivités locales, c'est-à-dire comment attirer et fidéliser des talents, comment rester attractif, au-delà même d'ailleurs des conditions salariales. Donc la question, c'est aussi les conditions de travail, le mode de management, la qualité des relations. Donc ça me semble très important, quand on parle de marque employeur, de ne jamais oublier que finalement, dans les fondamentaux, c'est d'abord et avant tout la qualité des relations au quotidien qui donne une image positive de l'organisation dans laquelle on bosse. Donc ça, c'est un des enjeux de transformation. Et puis aussi, tout simplement, l'ensemble des transitions qui sont à l'œuvre et que tout le monde prend aujourd'hui à bras le corps, que sont la transition écologique, digitale, organisationnelle. Enfin voilà, beaucoup de transitions, beaucoup de choses qui nous apparaissent complexes, qui vont pas de soi et qui remettent un peu en question nos façons de fonctionner. Et puis peut-être les modes aussi de demain de distribution du service public et les modes de la qualité, bien sûr, du service public à maintenir. Comment on fait, comment on s'adapte dans ce contexte complexe. Donc voilà, les enjeux de transformation, ils sont nombreux. Ils sont notamment organisationnels, humains, mais ils sont aussi tout simplement s'adapter à un monde qui est devenu complexe.
Donc cette complexité d'Edgar Morin, elle a été évoquée dans votre intervention. Donc est-ce que d'après vous, ces innovations ou ces enjeux, c'est subi ?
Alors ils sont beaucoup subis, faute d'anticipation finalement, par exemple. La façon dont beaucoup d'acteurs publics ou privés d'ailleurs ont pris et ont subi le côté télétravail et avec un côté urgence, etc. C'est vrai que pour ceux qui n'avaient pas du tout anticipé, ça a été plus douloureux et plus difficile et complexe sur le moment par rapport à d'autres, par exemple, qu'on a pu accompagner nous il y a depuis déjà 10 ans et qui avaient largement anticipé pas anticipé cette crise, mais qui avaient en tout cas anticipé des nouvelles façons de travailler en interne, qui étaient moins basés sur le présentéisme et sur le contrôle que d'autres, ont eu moins de difficultés à s'adapter.
Oui, comme quoi, de temps en temps, prédire, ça peut être...
Expérimenter, en tout cas, oui, ça aide sans doute à prévenir un certain nombre de problèmes.
Au regard des enjeux que vous venez d'évoquer, les organisations ont nécessité de suivre des chemins de transition pour répondre aux défis de demain. C'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça, et ils sont nombreux, mais vraiment, je réinsiste, vous avez cité Jean-Michel Edgar Morin, dans la pensée complexe, il y a le côté systémique, c'est-à-dire ne pas essayer de cloisonner les problèmes et de les prendre un par un ou de les traiter un par un. Pour un exemple de ça, pour moi, à un moment donné, l'innovation organisationnelle ou la transition organisationnelle, elle rejoint aussi la transition numérique, parce que si on n'a pas des bons usages de son système d'information et qu'on laisse le système d'information être pondu par des informaticiens sans prise en compte du design des interfaces, de l'expérience utilisateur, des usages collaboratifs qui doivent être liés normalement à, par exemple, un intranet. Si on cloisonne ces aspects-là, on travaille pas bien sur l'écologie humaine. Parce que si le système d'information me pollue mon boulot au quotidien plutôt que de me faciliter la vie, j'y laisse des plumes en termes d'écologie personnelle. Donc tout est lié pour moi, et finalement la complexité, faut arrêter d'en avoir peur et plutôt l'embrasser, et en se disant que c'est pas par des organisations cloisonnées qu'on répondra à la complexité.
C'est vrai que là, il y a le mot complexité qui est un terme qui a un sens en mathématiques, qui a un autre sens en sociologie. Mais derrière, est-ce que c'est pas revenir à plaisir à ? Avoir du plaisir à ?
J'en suis convaincu, c'est pour ça que j'ai coutume de dire que j'ai un beau métier, parce que je vends du sens et du bon sens, mais surtout du bon sens, et que finalement, derrière tout ça, et au-delà des grands mots, même le design thinking ou le design des politiques publiques, qui sont des termes à la mode et intéressants. Le design thinking est une méthode en soi intéressante, mais finalement, derrière ça, il y a beaucoup de bon sens. C'est avant de concevoir des produits ou des services, j'écoute l'utilisateur. Incroyable. Incroyable de, c'est ce que j'appelle, moi, du bon sens. Donc, si aujourd'hui, toutes les grands thèmes à la mode autour de la complexité des transitions permettent de remettre du bon sens dans l'organisation et de la faire respirer, ça ira dans le bon sens, précisément.
Alors, je vous entends le mot complexité, ça reste un mot qui reste en français. Est-ce que design thinking et autres choses pourraient être francisées pour être plus
compréhensibles. Comment vous traduisez design en français?
Ben c'est le problème, chacun a sa définition.
C'est comme week-end en fait, c'est un mot invariable. Et voilà, moi je suis d'accord et ça fait partie de mes nombreux défauts, j'utilise encore beaucoup de termes anglo-saxons.
Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que à un moment donné dans votre intervention, vous avez parlé du mind mapping et il aurait peut-être fallu parler directement des cartes mentales. Mais en termes de vocabulaire, une organisation française. Et derrière, surtout, la question que je me pose personnellement, c'est le mapping fait appel à un choix de vocabulaire et de mots. Ça veut dire que derrière, il faut maîtriser bien la langue.
Oui, alors sur les cartes mentales ou mind mapping, il y a aussi il y a les vieux tromblons de l'université qui parlent de schéma heuristique ou de carte heuristique. C'est encore d'autres approches. Il y a à peu près une dizaine de termes autour de la même approche. Après, je suis d'accord avec vous, il faut être vigilant là-dessus. Faut pas non plus en faire une religion, parce qu'aujourd'hui, bien que ça m'agace profondément, l'espéranto du 21e siècle, ça s'appelle l'anglais. Donc c'est aussi un langage universel qui permet d'échanger avec des gens du monde entier. Donc je suis assez content qu'on ait cet outil commun et universel. Et après, le défaut qu'on peut avoir aussi, c'est qu'on laisse un peu trop les anglo-saxons inventer les choses à notre place ou le remarketer à leur sauce, notamment dans le management et le marketing. Et je crois que l'écosystème, d'ailleurs, de ce point de vue-là, le plus caricatural, c'est sans doute les startups. et d'ailleurs, notre président n'est pas exempt de tout reproche là-dessus, parce que sur la Startup Nation et le vocabulaire employé autour de tout ça, on entend... Alors, je le dis d'autant plus volontiers que j'étais moi-même assez caricatural quand j'étais moi-même créateur de startup, parce qu'on est bercé par son milieu, tout simplement.
Alors, on va revenir au français, si vous voulez bien. Il y a un mot qui est souvent employé par les managers de collectivités, hein, à l'occasion de discussions, c'est innover. Pourriez-vous donner à nos auditeurs quelques exemples de bonnes pratiques?
Alors oui, le terme innover est beaucoup employé. C'est vrai qu'il peut perdre parfois de son sens un petit peu, parce qu'on a tendance à mettre innovation à toutes les sauces. Et puis surtout qu'en arrière-plan, il y a beaucoup de frustration, parce qu'il y a beaucoup d'injonctions paradoxales. C'est-à-dire, on parle d'innovation, mais on la pratique pas toujours. Moi, je pense qu'il y a quand même plein de bonnes pratiques. Je vais vous donner quelques exemples. Un exemple dans le conseil départemental du Nord qui a créé une entité interne qui s'appelle la Fabrique 59. Alors, rien à voir avec notre fabrique du changement à nous, mais qui est à la fois un centre de formation pour acculturer les fonctionnaires de la collectivité aux méthodes d'idéation, de facilitation, les aider dans les projets. Donc, une dimension pédagogique de transmission de savoir et de choses assez, assez innovantes, notamment aux managers, mais pas seulement, aux agents aussi. Et puis, ils ont organisé des simplificatons pour virer des process inutiles, se simplifier la vie, essayer de voir où étaient les cailloux dans la chaussure de beaucoup d'agents qui saturaient tout simplement de reporting inutile. Et donc, ils ont organisé des simplificatons. Voilà très concrètement un exemple de bonne pratique, de choses assez simples à organiser et qui derrière peuvent changer la vie des gens, puisque si on simplifie les procédures, on gagne aussi du temps. Et on sort un peu de l'éternel syndrome de la réponse publique éternelle. J'ai pas le temps, je suis débordé. Je rappelle, petite statistique que j'ai donnée tout à l'heure, que nous passons, en tant que fonctionnaires dans le public, 18 ans de notre vie professionnelle en réunion, contre 10 ans dans les pays scandinaves, par exemple. Donc, l'innovation et le fait, en tout cas, d'expérimenter des choses, si on veut que l'innovation soit réelle, ça passe beaucoup par l'expérimentation, le fait de faire, et le fait de tenter des choses, de lever les autocensures. Un autre exemple de bonne pratique, les expéditions pédagogiques. C'est-à-dire, à un moment donné, quitter la posture de sachant et se dire qu'on a peut-être intérêt à se nourrir de l'intelligence collective et de ce que font les autres, qu'ils soient privés, publics, peu importe, finalement on s'en fout un peu. Les réponses à tous les enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure ensemble, et elles se feront tous ensemble ou elles ne se feront pas, très concrètement. Et personne n'a une réponse isolée dans son coin, universelle et magique à tout ce qu'on vit. Donc il faut co-construire. Donc pour moi, un exemple de bonne pratique, c'est aussi d'avoir la modestie d'approche, d'aller visiter les autres pour voir ce qu'ils font de bien et apprendre les uns des autres. Donc voilà, ça c'est un chemin aussi possible, par exemple.
Ça repose quand même sur une certaine fraternité.
Une certaine fraternité, il y a le musée des compagnons qui est pas loin de où se déroule cette interview. Moi, je crois beaucoup au compagnonnage interne aussi et au fait de progressivement faire monter les collègues en compétences par le partage d'expériences. Donc ça suppose aussi, et c'est, je pense, un des enjeux du secteur public, ça passe aussi par un changement de posture sortir de ce qu'on a hélas appris à l'école, c'est-à-dire cette espèce de rapport malsain à la compétition permanente des enfants, pour aller vers des logiques de coopération, parce que c'est que par la coopération qu'on arrivera à s'en sortir.
Alors, à un moment donné, vous avez évoqué la simplification comme exemple de procédure. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Simplifier, ça veut dire aussi derrière la conséquence par rapport à l'existant, hein. Faire confiance.
C'est le cœur de sujet, finalement. Et là où aujourd'hui on a des gouvernances et des systèmes qui fonctionnent un peu sur eux-mêmes avec une survalorisation du contrôle et du poids du contrôle à tous les niveaux, dans un rapport, moi j'ose le dire, quasi infantilisant avec les agents. C'est-à-dire que quand je vois dans certaines réunions comment des collaborateurs se font, comment on leur parle alors qu'ils ont parfois 50 balles extra, enfin, je trouve ça hallucinant. D'ailleurs, quand bien même ils auraient 30 ans, ça justifierait pas le fait de leur parler comme à des idiots. Donc ça, c'est, je pense, un changement de posture qu'il faut avoir. C'est beaucoup dans la tête, ça. Hein. C'est très, très culturel. Et par contre, ce dont on peut témoigner, et on a 150 études de sociologues, des organisations qui convergent là-dessus, pour dire que la confiance coûte moins cher que le contrôle. C'est-à-dire que l'ensemble des salaires chargés et cumulés de tous les gens qui font du contrôle dans les organisations, notamment les institutions publiques, coûte beaucoup plus cher que le risque qu'on essaye de prévenir. Donc c'est un non-sens, ça n'a aucun intérêt. Et accessoirement, pendant qu'on a 30%, c'est à peu près la statistique, désolé de cet anglicisme, de bullshit job, pendant qu'on a 30% des jobs qui font du contrôle ou des machins à moins forte valeur ajoutée, c'est autant de gens qui sont pas face aux citoyens ou face aux élus à rendre des services qu'ils pourraient rendre, mais qui passent leur temps à être contrôlés. Alors ils sont eux-mêmes contrôlés, hein, parce que l'idée c'est qu'il y ait des contrôles des contrôleurs, etc. Bref, à quel moment on arrête ces circuits kafkaïens pour se resimplifier la vie et face aux citoyens qui est devant nous, se dire c'est quoi les solutions simples que je peux apporter. D'ailleurs, un des effets pervers de la numérisation à outrance, quand on va trop vite et trop loin, c'est aussi qu'on se pose plus la question de ce que vivent par exemple les petits vieux dans leur rapport aux démarches administratives. Donc là aussi, je pense qu'il va falloir remettre du bon sens dans le système pour se poser la question de qu'est-ce que vivent vraiment les gens. Et faire confiance, c'est libérer l'expérimentation, c'est postuler que les gens vont faire du mieux qu'ils peuvent. Et puis en tant que manager, c'est soigner ses niveaux de délégation en acceptant l'idée que peut-être le collaborateur fera pas exactement comme vous auriez fait, mais que c'est pas grave, parce que fait est mieux que parfait.
Effectivement. Donc, service public veut dire se préoccuper du bien-être des concitoyens, mais il y a aussi le bien-être au travail. Enfin, bien-être. Être heureux de rendre le service. Quels aspects voyez-vous là dans l'organisation qui pourraient contribuer à ça?
Moi, je pense que tout est lié. Alors, je préfère d'ailleurs ce vocabulaire, hein, Jean-Michel, je suis d'accord avec vous. Je préfère utiliser le mot de bien-être que de bonheur au travail, qui me semble un peu galvaudé et un peu intrusif par rapport à la vie personnelle. On est sur d'autres champs qui sont plus du développement personnel, ce qui n'est pas incompatible avec le travail. Je pense que chacun peut suivre un chemin de transformation personnelle qui est intéressant et qui va aussi lui servir pour ses postures professionnelles, bien sûr. Donc là-dessus, d'où d'ailleurs notre signature, nous, d'événement, c'est « Je change, nous changeons ». Parce qu'on est persuadé qu'avant le changement collectif, il y a aussi un changement individuel à opérer. Et donc, qualité de vie, équilibre vie pro, vie perso, qualité de vie au travail, tout ça est aussi lié à la qualité des relations, de ce qu'on vit au quotidien. Et la qualité des relations, bah, c'est les postures, c'est la reconnaissance, et est-ce que mon manager me dit bonjour quand il arrive, et est-ce que moi-même je dis bonjour à mes équipes, c'est est-ce que je suis dans des postures de coopération, de facilitation, ou est-ce que je fais pipi en permanence autour de mon territoire pour montrer que c'est moi qui ai le pouvoir, etc., etc. Et c'est ça qu'il s'agit de changer et progressivement d'essayer d'opérer dans les institutions. Donc c'est passionnant, c'est casse-gueule, mais passionnant. Et je pense que c'est un chemin qu'on a intérêt à prendre rapidement maintenant, et il y en a pour un petit moment.
Alors en ce moment, au niveau européen, il y a une arrivée qui est le label Éloge qui est fait par le Conseil de l'Europe, qui est à une évaluation de ce qu'ils appellent en anglo-saxon, c'est moi qui le dis, hein, le soft power. Donc il y a une notion de rendre compte aux citoyens. Et je pense que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, les évolutions qu'on va revoir et pouvoir constater dans les services publics vont dans ce sens-là, d'être en capacité d'être le plus objectivement et le plus fiablement en capacité de rendre compte aux citoyens.
Là aussi, ça me semble du bon sens démocratique. Finalement, cette culture du feedback, du retour et d'avoir régulièrement des retours à faire. D'ailleurs, par analogie, il n'y a pas que les élus avec les citoyens, c'est aussi les managers avec leurs équipes en interne. C'est là où toute la chaîne de valeur peut se mettre en place, c'est-à-dire que tout le monde soit le plus exemplaire possible, on peut pas l'être tout le temps, mais le plus exemplaire possible, et avoir cette attention, et là aussi ce bon sens d'écoute, de qualité d'écoute réelle et authentique, et ça veut dire, et l'écoute, ça se travaille aussi. Donc là aussi, quand on parle de participation citoyenne, bah faisons-la vraiment. Arrêtons de mettre trois élus en mode sachant sur une estrade, avec trois petits vieux qui viennent nous parler de leur nid de poule. Il y a quand même beaucoup mieux à faire. Alors il y a des méthodes, le forum ouvert, plein de choses qui nous viennent notamment du Québec, qui est d'ailleurs un territoire intéressant à observer là-dessus, sur l'innovation pédagogique de la concertation. Donc voilà, je pense que les élus sont en train de prendre conscience qu'ils y ont tout intérêt, parce qu'ils sont eux-mêmes paumés en fait. Et on a beaucoup de mal en France à dire « je sais pas ». Du mal à reconnaître qu'on a fait une erreur alors que ça fait partie de la vie, intrinsèquement. Donc je pense que les élus sont en train progressivement de switcher dans cette culture, que par contre les agents territoriaux, mais les agents publics d'une façon générale, et notamment les top managers, doivent aussi évoluer dans cette culture de prendre des retours, de se nourrir de ça, et puis de co-construire, quoi. D'abord parce que c'est passionnant, et puis deuxièmement, encore une fois, parce qu'on a sans doute pas le choix, si on veut pas retrouver trop de têtes au bout des fourches dans quelques années, parce que là, le système, il est quand même au bord de... On le sent bien, mais moi, j'en attends beaucoup de positifs. Je suis peut-être un peu naïf, mais je prends le pari de l'optimisme, et je pense que les révolutions qui sont à l'œuvre désormais vont être vraiment passionnantes à vivre. Et voilà, et le champ des possibles est ouvert.
Alors, en vous écoutant, on s'adressait à des adultes, mais à mon avis, il y a quand même un gros travail pour ne pas avoir à faire ça en amont au niveau de l'éducation et de la formation des esprits de nos enfants ou du futur.
Tout démarre là, c'est le socle. Moi, je regarde avec admiration depuis longtemps les méthodes freinées Montessori, ce que font les pays scandinaves depuis longtemps, le Québec encore une fois. Là aussi, on a beaucoup à apprendre et à apprendre. Il y a de plus en plus d'enseignants, heureusement, qui se saisissent de ça, mais le problème, c'est que ce sont ces mêmes enseignants les plus en pointe qui sont en train de démissionner massivement parce qu'ils en ont ras-le-bol. Donc, comment on fait pour garder ces talents-là? Mais en tout cas, la vraie révolution, elle va venir du système éducatif français, dès la petite école, même dès la crèche, hein. Il y a des choses à faire. Là aussi, les pays scandinaves, par exemple, forment leurs enfants aux cartes mentales dès le CP, mais aussi à la communication non-violente, à l'expression orale. Quand je vois certaines prises de parole, y compris de grands élus, etc., je me dis qu'on a loupé des cases pour embarquer les gens. Parce qu'on va avoir aussi de gens derrière. Alors moi, j'attends pas d'homme providentiel, j'y crois pas. Par contre, je crois qu'on a besoin quand même d'avoir des top managers inspirants, qui ont du leadership, qui nous embarquent et qui nous donnent envie, quoi. Ils ont pas toutes les réponses et je leur en veux pas du tout. Par contre, j'attends d'eux qu'ils nous emmènent quelque part et qu'ils nous expliquent pourquoi. Et ça, je pense que ça se travaille aussi dès l'école, par la formation et le CNFPT. En tant qu'acteur de formation continue, doit prolonger ce travail-là aussi derrière. Et je pense que tous les organismes de formation continue doivent vraiment convaincre les élus, les cadres et les agents que l'apprentissage s'arrête pas à 25 ans parce qu'on a été une bête de concours et qu'on a bien bossé pendant 10 ans à l'école. Hein. On va continuer à apprendre toute notre vie et ça aussi, c'est enthousiasmant.
Effectivement. Mais François, notre émission touche à sa fin. Si j'avais trois mots à retenir pour résumer votre intervention d'aujourd'hui aux rencontres de Nantes organisées par le CNFPT, lesquelles ça serait? Ou peut-être un peu plus, hein.
Je mettrais sans doute en premier coopérer, parce que ça me semble aujourd'hui fondamental. J'ose même le mot d'ailleurs pour certains secteurs de coopétition. C'est dire aux gens, vous pouvez être parfois en compétition, ça va être votre cas vous dans votre représentation mentale, par exemple des acteurs du privé, entre guillemets, par moment, alors qu'en fait, se dire, mais une fois que j'accepte la coopétition, c'est-à-dire, ok, on est concurrent à la marge, mais on a beaucoup plus à gagner à faire des choses ensemble parce qu'on va être dans un apprentissage mutuel et je vais franchir des paliers beaucoup plus rapidement. Prendre conscience de ça, c'est important. Donc coopérer, ça me semble au cœur aussi de ce que pourrait être le projet éducatif de demain. Voilà, arrêter la compétition individuelle et mettre les enfants dans le sens de la coopération. Parce que pour répondre aux enjeux transversaux qu'on a, c'est ça qui marche. Deuxièmement, intelligence collective, et c'est directement lié à la coopération finalement. L'intelligence collective à la fois comme levier, mais presque comme objectif aussi. Parce que finalement, travailler ensemble, ça structure aussi le sens. Vraiment, et ça j'y crois. Ça révèle des choses, et il se passe des choses qui ne se seraient pas passées autrement. J'ai coutume de dire que un projet réussi, c'est pas un tableau Excel, c'est des hommes et des femmes qui font quelque chose ensemble, qui ont envie de faire quelque chose ensemble, ou pas. Donc voilà, ce mot d'intelligence collective, j'y tiens tout particulièrement. Et puis le dernier mot, s'il en faut un dernier, mais je pourrais vous en donner plein d'autres, mais ça serait plaisir, parce que je pense qu'aussi on va s'en sortir en remettant du plaisir dans le système, parce qu'on est tous, on fait semblant d'être adultes d'abord, qu'on apprend mieux par le jeu, et que voilà, Je ne sais pas combien de temps il reste avant l'effondrement et si effondrement il y aura. En tout cas, on a tous des inquiétudes. Mais essayons de vivre les années qui viennent le mieux possible en remettant du plaisir dans le système. Et ça sera déjà pas mal si on arrive à faire ça.
Merci François pour votre intervention. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes conférencier et créateur de la Fabrique du Changement. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez réécouter cette émission sur Fréquence T, la web radio des agents territoriaux, qui répond à l'adresse radio.cnfpt.fr. Je vous dis à bientôt.
Au revoir, à bientôt. Et n'oubliez pas l'adage, au pire, ça marche.
Le rendez-vous de l'actu.